Claude Rémy, vous êtes président d'Arnica Montana. Bonjour.
Bonjour.
On va parler des animaux et de l'hiver ce matin.
Comment les animaux d'altitude vont résister à l'hiver? Les conditions climatiques qui règnent en montagne sont très inhospitalières pour la faune. L'hiver est une période particulièrement difficile pour les animaux qui vivent en haute altitude. Comment résistent-ils à ces conditions rigoureuses? Un des facteurs déterminants de l'altitude, c'est la diminution de la pression atmosphérique qui entraîne des modifications de nombreux autres facteurs. Cette baisse de pression atmosphérique, elle est de 22% à 2000 mètres d'altitude. On va avoir, par exemple, ça va entraîner une baisse de la pression d'oxygène. Tous les montagnards savent bien que quand on arrive à 2000-3000 mètres d'altitude, on a plus de mal à faire un effort. Et les animaux sont adaptés à ces conditions. Les chamois, par exemple, et les bouquetins ont un taux de globules rouges pour transporter l'oxygène 2 à 3 fois supérieur à ce que nous avons, nous, au taux de globules rouges de l'homme. On a des évaporations intenses, des vents extrêmement violents qui rendent ces conditions très difficiles, et aussi un rayonnement ultraviolet très important en montagne. Alors ce rayonnement ultraviolet, il est 30% supérieur à 2000 mètres d'altitude, par exemple au col du Lautaret, qu'au bord de la mer. Et ce rayonnement ultraviolet va provoquer des réactions photochimiques qui favorisent la production de radicaux libres, qui sont des substances superoxydantes, qui occasionnent des dommages importants aux cellules. Donc des conditions qui sont déjà très difficiles. On a en plus les facteurs topographiques, la pente, qui rend difficile aussi les déplacements. Les animaux pourront se réfugier en adrée, c'est-à-dire les versants sud en hiver et en nubac, les versants nord en été. Quand il faut se déplacer, fuir un prédateur par exemple, dans une pente, c'est quand même pas évident. Et un chamois va être capable de gravir 1000 mètres de dénivelé en 15 minutes. Il a un cœur particulièrement adapté. Mais les conditions sont encore plus difficiles pendant l'hiver. En particulier, les températures sont très basses. L'hiver, il gèle, ce qui va former des cristaux de glace, très dommageable pour les cellules. On a des différences de température très importantes entre le jour et la nuit, et même d'ailleurs entre l'été et l'hiver. Ce froid a une action sur les animaux. Pour les animaux homéothermes, c'est-à-dire ceux qui sont capables de réguler leur température interne, ces animaux vont devoir dépenser beaucoup d'énergie pour résister au froid et maintenir leur température constante. Les animaux hétérothermes, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas réguler leur température, comme les insectes, les amphibiens, ils vont risquer le gel. Et le gel va détruire les cellules en formant des cristaux de glace. Ces animaux vont se réfugier dans des abris, ou bien ils vont fabriquer des substances anti-gel, on le verra tout à l'heure, mais le gel est un risque très important pour eux. L'hiver, il neige. La neige va rendre difficile le fait de trouver de la nourriture. La neige va occasionner des difficultés pour se déplacer. Il pourrait y avoir des mortalités par des avalanches. Les animaux sont beaucoup plus visibles sur le blanc de la neige vis-à-vis des prédateurs. Mais la neige aussi peut avoir un rôle de protection. Par exemple, sous 30 cm de neige, la température est aux environs de 0 degré, ne descend pas en dessous. Donc, comment les animaux résistent-ils à l'hiver en altitude?
Il y en a qui hibernent.
Eh bien, on va voir, il y a de nombreuses possibilités. Tout d'abord, on va prendre une petite analogie. Vous avez des gens dans Briançon, par exemple, qui, l'hiver, partent dans le midi, dans les endroits un petit peu plus chauds. Ben, ce sont des migrations. Ben, des animaux migrent. On a en particulier les oiseaux. Il n'y a pas que, mais en particulier. C'est le cas qui est le mieux connu, par exemple. On a les migrateurs au long cours. Les hirondelles vont migrer au-delà du Sahara. On a des migrateurs sur de plus petites distances. La fauvette à tête noire hiverne dans des régions méditerranéennes ou en Afrique du Nord. Et puis certains oiseaux, comme le pinson du Nord, qui viennent d'Europe du Nord, peuvent hiverner en France et notamment dans les Hautes-Alpes. Et lors de périodes de mauvais temps, certains animaux, comme le ticodrome ou les chocards à bec jaune, c'est ces sortes de petits corbeaux au bec jaune, qui vivent en altitude, descendent en plaine ou dans les fonds de vallée. Et on a tous en mémoire ces groupes de parfois plusieurs centaines de chocards à bec jaune qui tournent au-dessus de Briançon, souvent à l'approche d'une période de mauvais temps. Il y a ceux qui restent. Et quand on reste et qu'il fait froid l'hiver, ben on aime bien rester au chaud dans son habitation, plutôt que d'aller au nord. Et certains animaux vont se regrouper dans des cavités. C'est le cas des mésanges, qui se regroupent en dortoirs dans des cavités naturelles, des troncs, des souches, lorsque la température descend en dessous de zéro. Ce comportement va permettre un réchauffement de l'air qui peut atteindre plus 7 degrés. Et lorsque la température tombe en dessous de zéro, c'est quand même appréciable. Une des techniques très efficaces, c'est de construire un igloo. Certains animaux le font, c'est le cas du tétralyre. Le tétralyre, qu'on appelle parfois aussi le petit coq de bruyère, va creuser carrément une galerie sous la neige, hein, qui va être à peu près un diamètre d'une vingtaine de centimètres, et il va y passer la nuit, ou quand il fait très mauvais. Et dans cette cavité, la température reste entre 0 et 4 degrés. Quand on a des températures de moins 10, moins 15, moins 20 en altitude, c'est quand même appréciable. Sous la neige, nous l'avons dit tout à l'heure, la température à 30 cm, la même que la température moyenne journalière, et en dessous de 30 cm, elle est aux alentours de 0 degré. Certains animaux, comme le campagnol des neiges, passent l'hiver dans un espace étroit entre le sol et la neige en mangeant des plantes et des racines. Donc ils sont bien au chaud, bien à l'abri. Et pourquoi ne pas habiter chez les autres? De nombreux insectes passent l'hiver dans des terriers de marmottes où règnent des conditions plus clémentes. Ils vont squatter finalement les terriers de marmottes. Alors quand nous voulons nous déplacer dans la neige, qu'est-ce qu'on fait? On met des skis ou des raquettes qui vont augmenter la surface portante et nous permettre de ne pas nous enfoncer. Ben, les animaux ont inventé ces instruments bien avant nous en augmentant la surface portante de leurs pattes pour éviter de s'enfoncer dans le manteau neigeux. C'est le cas toujours du tétralyre. Le tétralyre possède autour des doigts de ses pattes des sortes de petits peignes cornés qui augmentent la surface. Le lagopède, la perdrix blanche des neiges qui vit en haute altitude, même l'hiver. Juste avant l'hiver, les doigts de ses pattes se couvrent de plumes compactes et flexibles qui vont jouer le rôle de raquettes. Les griffes s'allongent à l'approche de l'hiver, passant de 9 mm à 17 mm. D'ailleurs, lagopède, lagos, large, pède, pied, les larges pieds. Finalement, ils ont inventé les raquettes. Les chamois ont entre leurs sabots une sorte de tendon qui augmente aussi la surface portante. Sortir l'hiver nécessite de se couvrir pour ne pas avoir froid. Quand on sort l'hiver, on met un manteau, on met un anorak. C'est la même chose pour les animaux. Et de nombreux animaux vont subir des mues à l'approche de l'hiver. À la mue d'automne, le pelage du chamois devient plus épais et plus isolant. Il devient également plus foncé pour mieux capter l'énergie du rayonnement solaire. Une couche de graisse sous-cutanée renforce la protection contre le froid. Revenons au lagopède dont nous avons parlé tout à l'heure. Le plumage hivernal du lagopède a une haute valeur protectrice. Les plumes sont plus serrées, plus longues, avec un duvet plus dense à la base. Et ces plumes contiennent beaucoup d'air, jouant un rôle d'isolant et donnant au plumage un pouvoir de réflexion de la lumière proche de celui de la neige. L'animal devient blanc, comme la neige, en hiver. Il passe ainsi inaperçu sur le manteau neigeux, ce qui lui donne plus de chances d'échapper à ses prédateurs. La morphologie des animaux de montagne joue également un rôle important pour lutter contre le froid. Pour une même espèce, les individus de montagne sont plus gros que les individus de basse altitude. Par exemple, le campagnol des neiges est plus gros et plus trapu que son homologue de plaine. Le troglodyte mignon, ce petit oiseau qui vit dans les arbustes, en plaine, il pèse 9 à 11 grammes. Le même troglodyte en montagne, même espèce en montagne, 13 à 15 grammes. En effet, les pertes énergétiques qui sont incompressibles pour maintenir un organisme en vie, appelé métabolisme basal, diminuent par unité de masse avec l'augmentation de la taille de l'animal. Il faut 13 fois plus d'énergie pour faire vivre, si vous voulez, 1 gramme d'une souris qui va peser 21 grammes, que pour faire vivre 1 gramme d'éléphant qui pèse 3 tonnes. Pour limiter les déperditions de chaleur, les animaux d'altitude ont des extrémités, comme les oreilles, beaucoup plus réduites que leurs homologues de plaine. Les oreilles du lièvre variable représentent 1/8 de la longueur du corps en altitude, contre 1/5 pour le lièvre brun de plaine. Finalement, pour résister au froid en montagne, mieux vaut être un peu gros et trapu que mince et lancé. Alors, il vaut mieux être un petit gros qu'un grand mince.
Oui, non.
En haute altitude, la nourriture se fait rare pendant l'hiver. De nombreux animaux font des réserves d'aliments pendant la mauvaise saison. C'est le cas du casse-noix moucheté qui vit dans les forêts de pins sambreaux en altitude, et nous en avons parlé lors d'une rubrique sur le bois des ailes. Et ce casse-noix moucheté fait des réserves de graines de pins sambreaux au mois d'août, il cache ses graines dans le sol et il retrouve ses graines l'hiver, même sous la neige. D'autres modifient leur régime alimentaire, par exemple. L'aigle royal, qui mange essentiellement des marmottes en été, devient charognard pendant l'hiver. C'est-à-dire qu'il va manger des animaux morts.
Tout ce qu'il trouve.
Certains utilisent leurs réserves de graisse qui sont accumulées pendant la belle saison. Par exemple, au cours de l'hiver, un chamois peut ainsi perdre un tiers de son poids.
C'est énorme.
Une des adaptations les plus remarquables est celle de la marmotte. Vous savez que dès la mi-octobre et jusqu'à environ la mi-avril, la famille marmotte se réfugie dans son terrier d'hiver. Elle enferme d'ailleurs l'entrée. C'est alors que commence une longue vie ralentie. Il y a une forte diminution du rythme respiratoire qui va passer de 25 à 30 inspirations par minute à une ou deux inspirations par minute. Une baisse de la fréquence cardiaque qui va passer de 90 pulsations par minute à 20 ou 30 pulsations par minute, et une baisse de la température interne qui va passer de 38 degrés à 4 ou 6 degrés. Ces modifications permettent à l'animal de consommer 95% d'oxygène en moins pendant l'hiver et donc de diminuer beaucoup les pertes énergétiques. Par contre, si la température approche trop de 0 degré, la marmotte se réveille pour ne pas mourir de froid. Mais par contre, ces réveils périodiques sont très consommateurs d'énergie. Et si ces réveils périodiques dus au froid, parce qu'elles se réveillent aussi, on va le voir tout à l'heure, si c'est dû au froid, il va falloir qu'elle bouge pour augmenter la température interne. Et là, elle peut ne pas passer l'hiver si ces réveils sont trop fréquents. Si par exemple, elle a choisi un terrier un peu trop près de la surface, ou mal isolé, ou autre. La marmotte ne consomme aucune nourriture pendant l'hibernation, mais elle utilise ses réserves de graisse. Et cette graisse est une graisse particulière, qui est la graisse brune. Son poids va passer de 5 kg à 2 kg. Sa léthargie hivernale est entrecoupée de brefs réveils qui sont indispensables à sa survie. En particulier, elle va uriner, mais elle ne mange pas pendant ses réveils. Et si on empêche la marmotte de se réveiller pour aller uriner, elle meurt, elle ne supporte pas de ne pas se réveiller, l'absence de ses réveils hivernaux, et on ne sait pas vraiment pourquoi. Un des grands dangers qui guette les animaux à sang-froid l'hiver, c'est-à-dire ceux qui ne régulent pas leur température, c'est le gel. En effet, la formation de cristaux de glace détruit irrémédiablement les cellules. De nombreux insectes fabriquent des substances anti-gel. Et ces substances anti-gel, elles sont chimiquement proches de l'antigel que l'on met dans les radiateurs de voitures. Et ces antigels fabriqués par les animaux évitent la formation de cristaux destructeurs. Ils peuvent ainsi vivre à des températures de moins 15 à moins 20 degrés.
Wow.
Plus étonnant est le cas de certaines grenouilles. Certaines grenouilles qui vont se laisser carrément congeler en contrôlant par des mécanismes biochimiques complexes la formation des cristaux de glace. C'est-à-dire qu'ils vont éviter que ces cristaux de glace ne prennent une taille importante et détruisent les cellules. Mais ils vont quand même congeler. Et si vous prenez ces grenouilles congelées, vous les réchauffez, et bien elles repartent. Hop, sur la sauté, elles sont
là. Ah ouais.
Extraordinaire. C'est un mécanisme de contrôle du gel. C'est-à-dire elle gèle, mais elle contrôle le gel pour que ce gel ne détruise pas leurs cellules. Donc si la faune d'altitude paraît résistante, elle n'en demeure pas moins fragile, en particulier pendant l'hiver. Alors que la nourriture se fait rare, les oiseaux et mammifères doivent dépenser beaucoup d'énergie pour lutter contre le froid et maintenir leur température interne constante. Ils ont du mal à équilibrer les apports et les pertes d'énergie. Le moindre dérangement par des skieurs ou par des motoneiges, ou des gens à raquettes, entraîne des dépenses énergétiques supplémentaires, d'autant plus préjudiciables qu'un animal stressé ne se nourrit pas pendant plusieurs heures. Par exemple, un tétralyre, lorsqu'il est dérangé, il fuit, donc il dépense de l'énergie pour la fuite, et il ne se nourrit plus pendant au moins 4 heures. Or, imaginez des dérangements successifs. L'animal va s'affaiblir. Si ça se répète de jour en jour, il n'arrivera pas à survivre à l'hiver. Donc, lors de vos sorties hivernales, soyez très discret, évitez tout dérangement de la faune. Et si vous voyez un animal ou si vous trouvez un animal sauvage en difficulté, appelez le centre de soins de la faune sauvage de Gap au 04 92 54 74 31.
Merci beaucoup.